Le journal, Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce dimanche, le début d'une semaine d'hommage rendu en l'honneur de Jacques Chirac. Cérémonie populaire cet après-midi aux Invalides. Hommage national demain lundi à l'église Saint-Sulpice où une trentaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Et à 8h20, Pierre Veille, retour sur le parcours singulier de Jacques Chirac en compagnie de votre invité.
Jérôme Jaffray, politologue, directeur du Centre d'études et de connaissances de l'opinion publique.
Dans l'actualité également, les suites de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Selon les pouvoirs publics, la qualité de l'air est à son niveau habituel, alors que l'inquiétude demeure et que des plaintes commencent à être déposées au parquet de Rouen. Pas question pour le moment pour Marion Maréchal de se porter candidate à l'élection présidentielle, contrairement à l'attente formulée par ses sympathisants. C'est ce qu'elle a indiqué hier à la convention de la droite, vous l'entendrez. Enfin, à 8h10, le journal des sports présenté par Hugo Charpentier. Au sommaire, les mondiaux d'athlétisme du Qatar avec l'abandon de Johan Diniz et l'élimination de Renaud Lavillenie.
France Inter.
Mais tout d'abord, les suites de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Nous sommes à un état habituel de la qualité de l'air à Rouen. Telle est la conclusion des relevés d'analyse toxicologique réalisés par l'INERIS, l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques. Une conclusion largement relayée par les pouvoirs publics. Alors, si tout risque semble désormais écarté dans l'air, si l'on se réfère donc au constat publié par la préfecture, qu'en est-il des conséquences à plus long terme, notamment au niveau des cultures? Des éléments de réponse avec Coralie Moreau de France Bleu Haute-Normandie.
Plus rien à craindre des fumées, selon les analyses, reste la pollution causée par les suies, dans les jardins notamment. Il faut les nettoyer à l'eau. Et s'il n'y a pas de traces, c'est qu'il n'y a pas de risque, explique le préfet de la Seine-Maritime, Pierre-André Durand.
Votre potager ne comporte aucune trace de cette pollution visible. Vous pouvez manger tout à fait normalement vos salades.
Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir une pollution en profondeur des sols, des particules fines en suspension qu'on ne verrait pas dans les maisons. Ça, vous dites non, il n'y a pas ce genre de pollution aujourd'hui à Rouen.
Non, il n'y a pas ce genre de pollution aujourd'hui à Rouen, c'est très clair au terme des analyses qui ont été produites.
Reste la question des conséquences pour la santé. Inhaler les fumées était mauvais, reconnaissent les autorités, comme pour tout incendie. L'odeur est incommodante mais pas nocive, martèlent les médecins. Et les passages aux urgences ont été minimes, ce qui est rassurant, souligne l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Oui, mais à long terme. Eh bien, difficile de répondre pour Élise Noguera, directrice générale adjointe. Elle annonce la mise en place d'un suivi sanitaire.
Nous sommes en lien avec l'organisme national Santé publique France pour organiser un suivi dans la durée sur le recours aux soins ou les besoins en santé qui seraient plus particulièrement marqués.
Un suivi déjà mis en place en 2013 lors de l'affaire du mercaptan et qui révèle un très faible recours aux soins 6 ans après l'incident.
À noter qu'au moins 5 personnes ont d'ores et déjà décidé de porter plainte contre X suite aux conséquences de cet incendie, des plaintes qui font suite à des vomissements et à des malaises. Et puis on l'a appris ce matin, une information judiciaire a été ouverte à la suite du décès mi-juin à Mulhouse d'une femme de 60 ans. Son employeur avait appelé le SAMU signalant des douleurs, symptômes évidents d'une crise cardiaque. Mais voilà, aucun véhicule sanitaire n'a été dépêché sur place et la femme a été retrouvée morte chez elle des suites d'un arrêt cardiaque. Précisons encore, sans savoir s'il y a de rapport de cause à effet, que les urgences de l'hôpital de Mulhouse sont en grève depuis plusieurs mois maintenant et doivent faire face aux nombreux départs de médecins épuisés par leurs conditions de travail.
Il est 8h04, Serge, c'est donc aujourd'hui, dimanche, que commencent les cérémonies d'hommage qui vont être rendues pendant près de 10 jours à Jacques Chirac.
Oui, cérémonies qui vont débuter à 14h cet après-midi par un hommage populaire qui va être rendu à l'hôtel des Invalides à Paris. C'est là que les Français pourront aller se recueillir devant le cercueil de l'ancien président de la République décédé jeudi à l'âge de 86 ans, Rémy Brancato.
Ils seront sans doute nombreux cet après-midi à patienter sur l'esplanade des Invalides.
À 14h, je serai là-bas. J'ai un petit bébé de 8 mois, mais que je vais emmener avec moi pour qu'elle sache cette part de l'histoire qu'il emmène avec lui.
Car Géraldine, qui habite Paris, s'apprête bien à vivre un moment d'histoire.
Les Français, les Parisiens savent se réunir pour les moments qui comptent. Quand il y a eu des choses graves dans notre pays, des attentats, c'est historique, c'est des moments où on s'unit.
Une forme d'union nationale autour de l'ancien président et pour Jean-Marc Calaisien, en week-end à Paris, c'est grâce à la personnalité de Jacques Chirac.
Je pense que là, on retrouvera toutes les personnes qui étaient peut-être pour ou contre lui, mais bon, je pense qu'il a laissé personne indifférent. Il rassemble tout le monde, quelles que soient les origines, les couleurs, et je pense que ce sera un moment comme celui-là, de recueillement pour tout le monde.
Un moment de recueillement aux Invalides, monument militaire pour saluer la mémoire du dernier président. président à avoir pris part au combat en Algérie. Pierre s'en souvient.
Moi aussi, j'ai été militaire par obligation, comme M. Chirac, c'était pareil. Il était sous-lieutenant à cette époque-là. Donc les Invalides, aujourd'hui, c'est plus que jamais très, très important. Je serai, ouais.
Le cercueil de l'ancien président sera installé à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Le public pourra signer des registres de condoléances.
Oui, des registres que Véronique, une habitante d'Arcachon, qui ne pourra pas être aux Invalides cet après-midi devant rentrer chez elle, a déjà rempli hier, mais à l'Élysée. Registre sur lequel Véronique a laissé un message un petit peu audacieux.
Alors, c'est un peu coquin, moi, ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était un homme qui était un petit peu un bad boy, que j'aimais les bad boys, les bons vivants. C'était pas un fade et sans saveur. Et voilà, moi, j'aime les gens comme ça. Et puis, il avait... Je ne veux pas être vulgaire, mais il y en avait. Voilà. Et beaucoup d'hommes politiques n'en ont plus.
Vous pensez à qui?
Non, là, je ne vous le dirai pas. Voilà.
Des propos recueillis sans nom, donc, par Sandrine Etoa-Andeg. Demain lundi, journée de deuil national et cérémonie d'obsèques à partir de midi en l'église Saint-Sulpice à Paris. Cérémonie à laquelle une trentaine de chefs d'État et de gouvernement pourraient assister. On attend notamment la venue du président russe Vladimir Poutine.
8h06, le journal Serge Martin. Politique avec la convention de la droite voulue par Marion Maréchal.
Une convention de la droite qui s'est plutôt transformée hier à Paris en une convention de l'extrême droite au cours de laquelle les intervenants se sont notamment inquiétés de la progression des immigrés colonisateurs, pour reprendre le terme. L'occasion également pour le maire de Béziers, Robert Ménard, de souhaiter ouvertement la candidature de Marion Maréchal à la prochaine présidentielle, candidature pour laquelle l'ancienne députée a préféré temporiser.
L'homme et la femme providentielle, c'est chacun et c'est chacune d'entre vous. J'entends les impatiences. Mais qui peut sincèrement imaginer que nos idées arriveront au pouvoir sans avoir préalablement brisé les barrières partisanes d'hier?
Des propos recueillis par Maxence Lambrecq du service politique de France Inter. Nous allons maintenant prendre la direction de la Grande-Bretagne et plus précisément de Manchester où débute aujourd'hui le congrès du Parti conservateur. Congrès où l'actuel Premier ministre Boris Johnson est impatiemment attendu, Marina Daras.
Cela a souvent été le moment préféré de Boris Johnson, son petit instant de gloire devant une foule qu'il sait faire rire. Mais cette année, son discours se passera devant un électorat conservateur assez divisé. Première embûche en vue pour Boris Johnson, on ne sait toujours pas quand ce fameux discours aura lieu. Traditionnellement, il sert de clôture du congrès le mercredi après-midi. Or, le Premier ministre sera attendu à la même heure à Londres devant la Chambre des communes pour un rendez-vous hebdomadaire avec les députés. Et depuis la décision de la Cour suprême d'annuler la prorogation du Parlement, il serait très risqué pour Boris Johnson de manquer cet exercice démocratique. Des manifestations anti-Bojo sont bien évidemment à prévoir, mais qu'en est-il des 21 députés conservateurs bannis du parti pour avoir voté contre le gouvernement? Ces conservateurs de longue date feront-ils le déplacement pour perturber le congrès? Impossible évidemment d'éviter le sujet du Brexit, mais avec les futures élections législatives déjà dans le radar du gouvernement, Boris Johnson n'hésitera pas à marteler haut et fort qu'il veut faire sortir le Royaume-Uni de l'UE le 31 octobre prochain, coûte que coûte. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
Jour de vote ce dimanche en Autriche. Il s'agit d'élections législatives anticipées sur fond de négociations autour de l'extrême droite et des sociaux-démocrates. Allez, du cinéma pour refermer ce journal. Du cinéma avec de jeunes défenseurs de l'environnement à l'image de Greta Thunberg. Dans l'objectif de la caméra de Gilles Demestre, une série de portraits enthousiasmants remplis d'espoir. Corinne Pellissier.
Je m'appelle José Adolfo et j'ai une bonne nouvelle. Lutter pour sauver notre environnement est au cœur de ma vie.
Il est à 13 ans le plus jeune banquier du monde, inventeur d'un concept qui lui a valu l'an passé à Stockholm le très prestigieux prix international pour le climat. La caméra de Gilles Demestre a suivi ce jeune péruvien partout, auprès des puissants qu'il faut convaincre, mais surtout auprès des écoliers de son village qui ont pu, grâce à lui, ouvrir leur propre compte en banque en collectant des vieux papiers, des déchets. L'écologie, une affaire sérieuse pour cet adolescent, érigé dans le film en porte-parole d'une génération bien décidé à changer le monde. Aïtsatou, Arthur, Ina, Peter, Chloé, tous préoccupés par les effets du réchauffement climatique ou de la pollution, mais aussi en guerre contre la pauvreté, le travail des enfants ou les mariages forcés. Des parcours exemplaires qui donnent à réfléchir, une tribune aussi pour ces enfants, sans peur et sans tabou, qui n'ont jamais pensé qu'ils étaient trop jeunes ou trop seuls pour s'engager fermement là où les politiques ont souvent échoué.
Au cinéma donc depuis cette semaine, et sachez que si vous souhaitez aider ces jeunes dans leurs initiatives, un financement participatif est ouvert jusqu'au 10 octobre sur le site KissKissBankBank. KissKissBankBank, c'est en anglais, je suis désolé. C'est à vous Pierre Veil.
C'était le journal de Serge Martin.